marine.
Vivre et travailler sur la mer et le littoral.
Un projet étudiant porté par Radio.
Loïc Van Odeneug.
Bonjour, je suis Loïc Van Odeneug. Je suis doctorant au laboratoire Environnement Profond de l'Institut IFREMER. Je fais donc de la recherche en écologie benthique. Je caractérise l'évolution temporelle et spatiale des communautés biologiques au niveau des sources hydrothermales. Je suis donc dans ce laboratoire depuis tout juste un an.
Bonjour Loïc.
Bonjour.
Nous t'avons rejoint au laboratoire Environnement Profond à l'IFREMER. D'ici, nous pouvons observer le goulet de la rade de Brest, mais aussi la mer d'Iroise, qui s'étend jusqu'aux îles finistériennes, Ouessant, Molène et Saint. Peux-tu nous décrire le lieu dans lequel nous sommes aujourd'hui et nous dire en quoi il se rapporte à tes recherches ?
Donc, nous sommes actuellement dans la salle de réunion de l'unité écosystème profond de l'Institut IFREMER. Et donc, on se trouve en fait dans un bâtiment qui accueille des laboratoires qui permettent de traiter les données scientifiques qui sont collectées. Et c'est un lieu où on interagit avec nos collègues pour produire des résultats, publier des articles, construire des projets de recherche. Afin de mieux caractériser ces écosystèmes marins.
À 1700 mètres de profondeur, sans lumière, comment la vie fait-elle pour se développer et quels organismes y retrouve-t-on ?
Donc, il faut savoir que la vie, elle a été caractérisée quasi sur l'entièreté des profondeurs possibles des fonds sous-marins. Donc, on a trouvé la vie jusqu'à 11 000 mètres de profondeur. Après, la vie est différente entre ce qu'on observe au niveau des sources hydrothermales et le reste des écosystèmes profonds, marins profonds. Donc, en règle générale, on va retrouver sur les bassins sédimentaires, donc qui caractérisent quasi l'entièreté, enfin une grande majorité des fonds sous-marins, on va retrouver une faune qui se nourrit en fait des particules organiques tombant de la surface. Donc, on va avoir une faune qui est dépendante de l'énergie du soleil. Par l'intermédiaire du phytoplancton qui descend donc avec la sédimentation. Au niveau des sources hydrothermales, on a vraiment des hotspots d'abondance, donc pas spécialement de diversité parce que ça requiert certaines adaptations étant donné la toxicité du fluide hydrothermal qui est rejeté à ces endroits. Mais au niveau des sources hydrothermales, on va vraiment avoir une abondance de ces organismes. Donc on observe des biomasses qui en termes de kilos par mètre carré sont énormes par rapport aux écosystèmes périphériques. Alors à quoi c'est dû ? C'est dû en fait à la chimiosynthèse. Donc ces espèces peuvent se nourrir en fait des bactéries qui utilisent l'énergie des composés rejetés par l'activité volcanique. Et en utilisant ces réactions chimiques, ils vont pouvoir récolter de l'énergie et se développer. Et en fait, les organismes qu'on va retrouver au niveau des sources hydrothermales vont se nourrir de ces bactéries avec plus ou moins de complexité. Donc certains organismes sont considérés comme brouteurs, ils vont simplement entre guillemets brouter le film microbien qui se développe, et tandis que d'autres vont carrément être super spécialisés, c'est-à-dire qu'ils ont des organes qui sont adaptés pour abriter ces bactéries stratégiquement c'est très intéressant car ils procurent un environnement à ces bactéries qui vont donc les nourrir. Et c'est pourquoi en fait on observe autant de biomasse, parce que la production d'énergie et la production de biomasse est très très élevée.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est une source hydrothermale sous-marine ?
Donc on se trouve dans des endroits où il y a une activité tectonique, donc par exemple dans le cas de mon site d'étude Lucky Strike au niveau de la divergence de deux plaques océaniques au niveau de la ride médio-atlantique. Et donc en fait les sources hydrothermales vont se retrouver là où il y a une activité volcanique, donc l'eau va s'infiltrer dans les entrailles de la Terre, se réchauffer et se charger en minéraux volcaniques et va remonter à très vive allure. Sauf que, au contraire des geysers sur Terre, on va avoir en fait une précipitation de ces minéraux volcaniques au contact de l'eau de mer. Donc, il va se refroidir, le fluide hydrothermal va se refroidir très très vite et va créer en fait des structures verticales, style des cheminées, ou même des édifices qui peuvent atteindre une dizaine de mètres, comme dans le cas de l'édifice Tour Eiffel. Et en fait, la faune qui hydrothermale va se distribuer le long de la dilution de ce fluide hydrothermal avec l'eau de mer.
Du coup, un fumeur noir, est-ce que c'est une source hydrothermale?
Une source hydrothermale, c'est un site en fait où on va avoir un relargage du coup de ces fluides hydrothermaux. Et il y a différents types de rejets hydrothermaux. Donc par exemple, les rejets les plus chauds et les plus chargés en matière volcanique sont les fumeurs noirs. C'est pour ça qu'ils ont cette apparence très noire dans leur couleur en fait. Et sinon, on a les fumeurs blancs, donc qui ont une température plus faible, aux alentours de 200 degrés, 300 à 400 degrés pour les fumeurs noirs. Et les fuites du fût, donc qui sont déjà très fortement diluées avec l'eau de mer et qui prennent une apparence en fait de moirage, comme un effet de chaleur qu'on voit aussi au-dessus de la route par exemple.
Tu effectues une thèse en écologie benthique, autrement dit la vie sur les fonds marins, sous la direction de José Sarrazin et Marjolaine Matabos. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ton sujet de recherche?
Alors, en gros, j'étudie à différentes échelles comment la faune hydrothermale se répartit donc dans l'espace, comment elle se distribue, mais aussi comment elle varie dans le temps. Le but, en fait, c'est de comprendre quels sont les facteurs, soit environnementaux, donc par exemple l'exposition au fil hydrothermal, l'exposition au courant aussi, ou l'interaction avec d'autres organismes, comment cela affecte en fait cette distribution et comment la faune en fait va réagir à cela. Donc par exemple au niveau des assemblages de moules hydrothermales qui vont dominer l'édifice de Tour Eiffel à Lucky Strike.
Et donc, dans ta journée, quelles tâches tu peux effectuer pour répondre à ces questions?
Alors ma donnée primaire pour vraiment regarder comment les organismes évoluent à travers le temps et l'espace, ce sont les images. Et donc je vais utiliser des annotations que je vais interpréter sous forme d'abondance, sous forme de couverture, et regarder comment les choses donc varient à travers mes images, à travers le temps, et aussi à travers l'espace, en sortant de différents indicateurs et en corrélant cela avec la variabilité des paramètres environnementaux qui ont été mesurés.
Donc en fait, c'est un peu des statistiques appliquées à des organismes sous-marins.
Voilà, c'est ça, donc c'est de l'écologie sur les fonds sous-marins.
Aujourd'hui, quels sont les intérêts d'étudier les sources hydrothermales sous-marines?
En termes de biologie, donc faut savoir que les sources hydrothermales, par exemple, elles ont été découvertes qu'en 1977, et ça a repoussé complètement notre notion de la vie. Donc la vie peut s'adapter dans des endroits aussi extrêmes. Et donc en fait, il y a certaines théories aussi qui établissent que la vie aurait pu se développer au niveau des sources hydrothermales, de par les conditions particulières qui auraient pu donc aider à la formation de molécules organiques. Et aussi au niveau de l'exploitation des minerais profonds, donc au niveau des sources hydrothermales, par exemple, on a beaucoup de terres rares qui sont accumulées de par l'activité volcanique. Et certaines entreprises spéculent à aller les exploiter. Et donc, en fait, notre but aussi en écologie, c'est de comprendre comment ces organismes peuvent résister face à des perturbations liées à l'exploitation qui arrivera dans les prochaines décennies.
Nous suivons Loïc dans la réserve au rez-de-chaussée du laboratoire où sont stockés tous les organismes marins collectés par les scientifiques lors de leur campagne en pleine mer.
Ici, ça, c'est la salle de dissection, d'observation, donc avec les différents binoculaires. C'est là qu'on découvre, par exemple, les nouvelles espèces. C'est là qu'on fait différentes études, par exemple, au niveau de la taille des différents organismes. C'est ici aussi qu'on trie les différents échantillons qu'on a récoltés pour pouvoir comprendre, en fait, la composition de la communauté biologique qu'on a récoltée, par exemple, dans les sédiments.
Et vous conservez aussi les organismes dans des bocaux.
Tout est conservé dans de l'alcool, formol, ou parfois à moins 80, dépendamment des études qui vont être réalisées dessus.
Mais toi, tu en as sur lesquels tu travailles,
Mais moi, en gros, je travaille essentiellement sur de l'imagerie, donc j'ai
Ah
pas
oui.
d'échantillons, mais il y a des organismes sur lesquels je travaille donc visuellement qui sont conservés. Donc, par exemple, Myrocharis, donc ça, c'est une crevette. Donc, qui vit à 20-30 degrés dans les écosystèmes hydrothermaux de Lucky Strike. Les gens ont parfois cet amalgame, enfin font parfois l'amalgame, ou ont ce stéréotype en tout cas, d'imaginer des monstres, littéralement, ce qui est vrai par exemple
Ouais.
pour les calamars. Les calamars géants sont gigantesques, mais au niveau des poissons, c'est des poissons qui restent assez petits. Si on a vraiment des poissons qui ne sont pas des des grands migrateurs. Et donc, en fait, ils vont rester vraiment dans une zone donnée. Et ils ont pas, tu vois, avec leur forme, ils ont pas une, ils peuvent pas avoir une nage rapide ni aisée. Oui. Donc, on n'est pas, on part pas sur.
On est toujours sur la taille d'une pomme de main. Tu as passé un mois en mer pour la campagne océanographique Mont-Marsat 2020. En quoi consiste exactement cette mission ?
Donc, les campagnes Mont-Marsat ont pour but de maintenir l'observatoire MZOASOR. Donc, en fait, c'est un observatoire qui est situé à 1700 mètres de fond, qui permet de collecter des données toute l'année concernant, par exemple, l'activité sismique, aussi caractériser l'environnement physico-chimique, donc par exemple en collectant des données sur la température, la chimie des fluides hydrothermaux qui sont relargués dans le champ hydrothermal, par exemple. Aussi de... Et donc, en gros, le but, c'est de revenir chaque année, remonter les instruments, les entretenir, les programmer, les équiper de nouveaux équipements, par exemple, s'il y a du développement à faire, et de tout remettre à l'eau pour un an de plus de collecte de données. Et en gros, là, c'est le suivi temporel de cet écosystème nous permet de mieux le caractériser, de mieux le comprendre, alors qu'il se trouve très très loin du continent et à une profondeur de 1700 mètres.
Donc tu as embarqué à bord du navire océanographique, le Pourquoi Pas. Quel a été ton rôle sur ce navire ?
J'ai dû réaliser pas mal de manipulations qui n'étaient pas spécialement pour moi. Donc j'en ai fait aussi pas mal pour ma thèse directement. On a maintenu l'observatoire Tempo, donc qui filme un assemblage de modules tous les jours. On a reconstruit quelques édifices en 3D. On a caractérisé... l'environnement physico-chimique grâce à des mesures in situ de fer et de sulfure, par exemple. Déployer différents équipements comme des chaînes de température sur l'édifice hydrothermal de Tour Eiffel. J'ai aussi donc participé à la collecte d'échantillons tels que des gastéropodes, la collecte de crevettes pour l'aquarium Océanopolis et à la caractérisation de l'habitat pour par exemple un projet MERCES qui étudie l'évolution de ces assemblages hydrothermaux après perturbation artificielle.
Maintenant Loïc, tu nous proposes de mettre un casque de réalité virtuelle pour plonger au cœur de la source hydrothermale Tour Eiffel.
Donc c'est une visite virtuelle de l'édifice hydrothermal, donc Tour Eiffel à Lucky Strike, et en gros en passant avec une caméra on va pouvoir reconstruire en 3D cet édifice, donc l'utiliser nous pour la recherche, pour créer des modèles de terrain par exemple, ou l'utiliser pour montrer aux gens ce que c'est en fait une source hydrothermale et ce qu'on étudie.
Température 4 degrés, pression 170 fois la pression atmosphérique, nous y sommes. La voilà, la source hydrothermale. De son petit nom, la Tour Eiffel. Elle se dresse
de roche, dans ce qui me semble paraître être de la roche.
Haute, comme un immeuble de 5 étages.
Après, les couleurs qui sont reconstituées, c'est assez mauve, rose, orangeâtre et blanc, gris.
4 degrés, pénètre dans la croûte océanique, se réchauffe.
Et il y a de la, une sorte de jet de fumée qui sort.
320 degrés.
Voilà, c'est vraiment les dépôts minéraux, okay, hydrothermaux qui sont accumulés. Et donc, les fumées, donc ça c'est un fumeur noir, c'est de l'eau qui est mélangée à du matériel volcanique en fait, grosso modo, et qui ressort à haute température. Dans l'eau de mer, en fait, enfin, au niveau du plancher océanique.
Et la structure est vraiment immense, parce que le robot, il fait juste une toute petite taille par rapport à tout le monde hydrothermal.
C'est la chimiosynthèse.
Ah ouais, je vois toutes. Je crois que c'est des moules, là, du coup, qui sont agglomérées, ouais.
C'est un assemblage de modules.
Ah ouais, ouais. Du coup, elle recouvre tout le haut de la cheminée, ouais.
Ouais, le sommet de l'édifice de Tour Eiffel est vraiment recouvert de ces moules.
En matière organique.
Et on voit aussi du blanc. Tout ce qui est blanc, c'est aussi des organismes vivants ou
Tout ce qui est blanc, donc c'est soit des déposés minéraux, soit des tapis microbiens, en fait. Donc il y a vraiment des petits duvets, des plumeaux de bactéries qui se développent. Et ça montre bien, en fait, qu'il y a une activité des micro-organismes qui est assez grande à ces endroits-là, en fait, et qui permet, du coup, la vie, en fait,
au niveau des sources hydrothermales. C'est le Graal des scientifiques.
Et ces bactéries, en gros, elles utilisent le soufre réduit des panaches hydrothermaux. La spécificité de notre appareil à nous, au niveau des Açores, donc c'est que l'observatoire n'est pas relié directement à la Terre. Il va envoyer ses données à une bouée, par acoustique en fait, par fréquence acoustique. Il va envoyer les données à une bouée qui va ensuite les envoyer par satellite et qui va les renvoyer sur Terre. Voilà, et toutes les données ne peuvent pas être transférées parce qu'on a une capacité de transmission qui est limitée en termes de taille de fichiers. Et par exemple, les vidéos, on ne sait pas les récupérer, on ne sait pas les envoyer par satellite, ça demanderait trop de... C'est des trop gros fichiers, par exemple.
Mais il est temps de rejoindre l'Atalante. Début de remontée.
In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found the sea of green.
Aujourd'hui dans Marine, nous sommes en compagnie de Loïc Van Odenag, doctorant au laboratoire environnement profond à l'Ifremer. Il a participé à la mission océanographique Momarsat 2020 au large des Açores. Et ensemble, nous discutons de ses recherches sur les écosystèmes des sources hydrothermales des grands fonds et de son expérience à bord du navire, le Pourquoi Pas.
Tu es originaire de Belgique. Comment tu t'es retrouvé en Bretagne à étudier les écosystèmes marins profonds ?
Donc, c'est-à-dire qu'en fait, donc j'ai fait un master qui est un master européen et durant lequel j'ai voyagé dans différentes universités, différentes institutions, et j'ai eu la chance de pouvoir participer à différents projets au niveau des sources hydrothermales, par exemple, des écosystèmes profonds aussi au niveau des coraux, comme par exemple en Angleterre. Et donc, quand j'étais en Norvège, j'ai rencontré un chercheur. Il m'a mis sur la piste donc, de cette thèse qui devait arriver bientôt à l'époque, et du coup j'ai postulé, j'ai été pris, et pour moi c'était super cool d'aller en Bretagne, en fait, parce que du coup déjà de 1 c'est un super beau cadre pour faire de la recherche de la mer, donc on est juste à côté de cet environnement marin, donc c'est assez stimulant. Et en plus de ça, après 2 ans passé à l'étranger dans des cultures qui étaient plus qui était moins similaire à la mienne, venir en France, pour moi, c'était un petit peu un retour aux sources, pouvoir parler français et tout ça, donc voilà. Et en plus, venir à Ifremer, qui est quand même un acteur prédominant dans la recherche marine des ressources de la mer, donc c'était très très intéressant à ce niveau-là pour pouvoir voir tout ce qui se faisait, en fait.
Parmi tous les organismes marins que tu étudies, y en a-t-il un que tu affectionnes plus que d'autres ?
en fait, c'est j'ai pas vraiment de bête préférée. Moi, ce que j'aime bien, c'est de comprendre en gros le rôle de chaque bête au niveau d'une communauté. Après, s'il y a un truc qui me fascine toujours au niveau de quand on est en plongée, par exemple, avec les robots sous-marins, avec les véhicules sous-marins, c'est les chimères. Donc, il y en a une qui est conservée là-bas. Il devrait y avoir des vidéos à l'entrée. Mais je pourrais vous montrer, c'est juste là.
Ah oui. Et déjà, le nom chimère, ça fait un peu fantastique.
Elle a un petit peu vieilli en soi, mais donc c'est une espèce de. C'est de la même famille du requin, un requin un peu préhistorique qui, en gros, on a l'impression que. Déjà, il a une forme assez atypique et on a l'impression qu'en fait, il vole vraiment, il plane dans l'eau avec beaucoup d'aisance. Ils ont l'air tellement mystérieux qu'on aimerait bien percer leurs secrets, et on ne sait même pas quel secret on aimerait percer en fait en les voyant. Et donc vraiment des organismes très très stimulants, et comme en général dans les grands fonds, on rencontre très souvent des organismes avec des morphologies très bizarres et des adaptations qui sont vraiment fascinantes en fait. Donc voilà.
À bord du navire, le Pourquoi pas, tu as parcouru presque un cinquième de la circonférence de la Terre. Qu'est-ce que ça fait de passer si longtemps en pleine mer ?
Donc, passer du temps en pleine mer, disons que parfois c'est un petit peu toujours la même chose, parce qu'on voit toujours le même horizon. Après, on voit des super beaux couchers de soleil. Mais passer aussi longtemps en pleine mer, regarder sa position sur la carte, voir qu'on n'a pas de réseau, c'est un isolement en soi. Et une énorme remise en question, en tout cas au niveau de notre taille. On parle de notre taille en tant qu'humain, de notre impact aussi. On parle souvent de l'espace, qu'on est tout petit au milieu de l'espace, mais en fait, on est tout petit au milieu de la Terre. On a juste pris l'habitude de voyager en avion, d'aller vite, très vite à un endroit donné sans vraiment voir la distance qu'on a parcourue en fait. Au fond, parcourir un cinquième de la circonférence de la Terre, ça permet de mieux comprendre où se trouve nos sites d'études, son éloignement par rapport à où est-ce qu'on se trouve, et de mieux appréhender en fait la distance entre les choses, l'isolement et l'hétérogénéité en fait de la Terre. Donc c'est ça qui est intéressant.
Selon toi, quelles sont les problématiques à venir pour les espaces marins et littoraux ? Et à ton avis, comment peut-on réagir ?
Donc, les espaces marins et littoraux, pour moi, il y a les problématiques, les grands enjeux du 21e siècle, comme on les appelle, c'est des enjeux qui sont tant marins, littoraux, mais aussi souvent terrestres. Donc, c'est une pression sur les ressources, tant biologiques que minérales ou primaires. Les grands enjeux, ils sont tant diplomatiques, économiques que de l'impact anthropogénique, comme par exemple la pollution. Pour moi, comment réagir, c'est déjà étudier l'impact potentiel, étudier, suivre une approche intégrée, donc multidisciplinaire, comment prendre en compte toutes ces composantes qui façonnent notre société pour mieux réagir face à tout ça, mais surtout d'avertir l'opinion publique des impacts probables et des urgences environnementales et sociétales qui sont présentes et qui seront présentes dans le futur.
Pour conclure, peux-tu nous citer quelques œuvres qui ont particulièrement marqué ta vie ?
Donc personnellement, donc les grands fonds m'ont vraiment donc j'étais déjà passionné en fait de tout ce qui était milieu aquatique déjà très petit, tout simplement par le fait que les milieux aquatiques, on sait pas voir ce qui s'y passe généralement, c'est très difficile à cause de l'opacité de l'eau, etc. Donc du coup, il y a un petit côté fascinant, mystérieux. Mais c'était un jour à la bibliothèque, j'ai pris un livre de Claire Nouvian, donc Abyss, et en fait, j'ai ouvert ce livre et j'ai été carrément charmé par les bestioles qu'on y trouvait. Et du coup, j'ai vraiment développé cet intérêt grâce à Internet, grâce à tout ce que je pouvais trouver sous la main, les documentaires à la TV. J'ai développé cet intérêt par rapport aux environnements profonds et voilà.
Merci beaucoup Loïc.
Merci.
Pour creuser le sujet, nous vous suggérons de lire le déroulement des campagnes Mont-Marsat sur le site de l'Ifremer, de feuilleter les photos de Claire Nouvian dans son livre Abyss et de participer à la Nuit européenne des chercheurs qui regroupe chaque année en novembre la communauté scientifique dans plusieurs villes françaises. Bien sûr, vous pouvez réécouter cette émission sur le site de Radio U, où sont publiés tous nos épisodes. À la réalisation, Brieux Calonnet, Jody Kimberley-Grelier et Manuel Saïki. À bientôt !